Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'ouragan Florence a provoqué de nombreux dégâts sur l'est des États-Unis hier. Au moins 4 personnes sont mortes. Les pluies continuent de s'abattre dans la région. Le point sur la situation avec notre correspondant à Wilmington, Gregory Phillips.
C'est une faillite qui a plongé le monde dans l'une de ses pires crises économiques.
Il y a 10 ans, la banque Lehman Brothers déposait le bilan. Retour sur cette chute spectaculaire avec l'un de ceux qui l'a vécu de l'intérieur, l'un des anciens vice-présidents de Lehman. Caroline, la crise économique, on en parlera aussi avec votre invité ce matin.
Il a été ministre des Finances de la Grèce de janvier à juillet 2015, expérience dont il a tiré un livre, Conversation entre adultes. Aujourd'hui, c'est une figure de la gauche européenne. Yanis Varoufakis est avec nous en studio.
Dans l'actualité également, aujourd'hui en France, des condamnations à 7 et 11 ans de prison pour 2 anciens skinheads dans la mort de Clément Méric en 2013. Et ils vont faire appel, annonce leur avocat, vous l'entendrez dans ce journal. C'est une maladie qui inquiète les éleveurs de porcs français, la peste porcine africaine. 3 cas ont été détectés en Belgique. La France prend des mesures pour lutter contre d'éventuelles contaminations.
Un chanceux a remporté 13 millions d'euros au loto hier.
Un loto un peu particulier, le tout premier loto du patrimoine organisé en France, mais ce n'est pas le premier en Europe. Précision dans quelques minutes. Des arbres déracinés, des panneaux renversés, des vitres brisées sous la force du vent et des trombes d'eau. L'ouragan Florence a touché l'est des États-Unis hier, tuant au moins 4 personnes. Des dizaines d'habitants sont pris au piège alors que les pluies torrentielles devraient durer plusieurs jours. Un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans, estime le gouverneur de Caroline du Nord, qui craint des inondations catastrophiques et que la totalité de l'État se retrouve sous l'eau. Un ouragan qui a donc fait au moins 4 morts, Grégory Phillips.
À Wilmington, les pompiers déplorent la mort d'une mère et de son bébé. Un arbre s'est écrasé sur leur maison. Dans un autre comté, un homme s'est électrocuté en branchant un générateur. Une femme a succombé à une crise cardiaque alors que les secours, bloqués par la tempête, n'ont pas pu accéder jusqu'à elle. L'ouragan Florence, le premier de la saison, a finalement été moins violent que redouté, mais il a fait des dégâts. Ici, il va falloir dégager des centaines d'arbres, réparer des dizaines de poteaux électriques. Sur toute la côte est, 40 000 électriciens ont été mobilisés pour remettre du courant le plus rapidement possible. Donald Trump a promis qu'il se rendrait dans les zones touchées par l'ouragan dès la semaine prochaine. Dès le début de cet épisode climatique, la Maison-Blanche a multiplié les communiqués et les déclarations pour montrer que l'administration était aux côtés des autorités locales, notamment dans les deux Carolines, alors que simultanément, Donald Trump lançait une polémique dont lui seul a le secret. À propos d'un autre ouragan, Maria, qui il y a un an avait dévasté Porto Rico, le bilan officiel de 3000 morts a été artificiellement gonflé par les démocrates pour me nuire, a écrit le président. Ces tempêtes et autres événements climatiques sont aussi ici des affaires politiques.
Autre événement naturel qui risque de causer des dégâts, c'est aux Philippines. Un typhon touche le nord du pays avec des vents jusqu'à 285 km/h. Des vagues pourraient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut sur les côtes. Les autorités s'attendent à des inondations et des glissements de terrain. Plus de 4 millions de personnes devraient être touchées par cette tempête. Un quart d'entre elles vit dans la pauvreté. Et l'invité des matins du samedi aujourd'hui, c'est l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Bonjour.
Bonjour.
Ces catastrophes naturelles s'enchaînent un peu partout dans le monde. Elles ont aussi touché votre pays cet été. Des incendies ont ravagé l'est de la Grèce. Vous, qui êtes pour une Europe écologiste, que doivent faire les gouvernements, selon vous, face à ces catastrophes ?
Le changement climatique est une réalité. N'est-ce pas ironique et tragique que la Caroline du Nord en soit victime aujourd'hui de ces phénomènes? Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était l'État de Caroline du Nord qui avait banni la recherche sur le changement climatique et la montée des températures de l'eau. Nous avons un devoir envers la planète et envers l'humanité de faire ce que nous avons fait pendant la guerre avec le Manhattan Project, lorsque on faisait face à un danger énorme que Hitler, cette bombe atomique qu'Hitler développait, on a mis en place les meilleurs scientifiques dans un endroit précis aux États-Unis, on leur a donné toutes les possibilités. Nous devons faire maintenant un projet Manhattan à l'échelle planétaire, des investissements importants dans les technologies. Le marché ne produit pas ces investissements par lui-même. Il faut avoir une banque d'investissement européenne, une banque d'investissement mondiale qui se coordonnerait avec l'émission d'obligations avec Simple Bank en garantie pour créer un fonds massif avec lequel on pourrait passer à la transition verte qui nous est tellement nécessaire.
Merci Yanis Varoufakis. On vous retrouve juste après ce journal.
C'était il y a 10 ans la chute de la banque américaine Lehman Brothers qui a plongé le monde dans la pire crise économique depuis les années 30.
Une institution plus que centenaire aux États-Unis qui dépose le bilan un 15 septembre 2008 et entraîne le licenciement de 25 000 employés. Parmi eux, Lawrence McDonald, qui était alors vice-président de la banque. Après avoir interviewé des dizaines d'anciens collègues, il a écrit un livre qui raconte l'intérieur de la chute de Lehman. En français, un monumental échec du bon sens. Vous l'avez rencontré, Marie Vienno.
Ils ont pris la tête de Lehman Brothers, ils l'ont mis sous l'eau et ils ont regardé les bulles remonter.
Il y a encore de la rancœur chez Lawrence McDonald. Pourquoi les autorités américaines ont-elles laissé sombrer son ancien employeur ? Lui avait toujours rêvé de rentrer dans cette banque. Embauché en 2004 comme trader, un an plus tard, il comprend que la banque prend trop de risques, mais impossible de faire passer le message.
75 ans, c'était l'âge moyen du conseil d'administration. Ceux qui y siégeaient ne comprenaient rien aux nouveaux produits financiers. C'était écœurant dans tout Wall Street, pas seulement chez Lehman.
L'ancien siège de Lehman, ce grand quinquagénaire, tout jeune père, peut encore l'apercevoir depuis son appartement situé au 40e étage d'une tour tout en verre. Côté train de vie, rien n'a changé pour lui. De son expérience, il a fait un business, participé à l'écriture de documentaires, de films sur la crise et ouvert une agence de conseil en risque financier, car risque il y a toujours.
La prochaine crise ne viendra pas d'une banque comme Lehman ou Goldman Sachs, ce sera une crise de la dette publique. Psychologiquement, on veut tous faire comme si tout allait bien, mais ça ne va pas bien. Quand le marché n'est plus naturel, que la dette devient vertigineuse, sans qu'on puisse la rembourser, il n'y a rien de magique. Il y a un problème.
Aucune leçon n'a été apprise depuis la crise, tonne-t-il, jusqu'à la prochaine, qu'il voit venir d'Europe et plus précisément d'Italie.
Marie Vienno pour France Culture. La pression contre Donald Trump grimpe aux États-Unis. Son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, a accepté hier de coopérer dans l'enquête russe. Revirement inattendu pour le président américain, si une collusion entre Moscou et son équipe pendant la campagne présidentielle de 2016 a réellement existé, Paul Manafort a très certainement été au courant. Paul Manafort a accepté de plaider coupable en espérant que sa peine soit réduite. De son côté, la Maison-Blanche a assuré que les faits n'ont rien à voir avec le président ou sa campagne présidentielle victorieuse de 2016. Une intervention militaire au Venezuela n'est pas exclue pour le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique. Luis Almagro évoque la possibilité de renverser le gouvernement de Nicolas Maduro, qu'il juge responsable de la grave crise économique, humanitaire et migratoire que traverse le pays. Il a également évoqué des violations des droits de l'homme et crimes contre l'humanité. Le président vénézuélien l'a accusé d'ingérence. Une attaque de Boko Haram a tué 8 personnes hier dans 2 villages du nord-est du Nigeria. Les villageois ont tenté de s'opposer aux djihadistes venus s'emparer de leur bétail. Trier les migrants sur les embarcations en mer, c'est ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur autrichien et membre du parti d'extrême droite hier lors d'une réunion européenne sur la politique migratoire. Herbert Kickl entend ainsi différencier les personnes habilitées à demander l'asile et celles qui ne le sont pas. Une proposition soutenue par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Des peines de 11 ans à 7 ans et 7 ans de prison à l'encontre de 2 anciens skinheads reconnus coupables d'avoir tué Clément Méric. Un troisième accusé a lui été acquitté. La cour d'assises de Paris a estimé qu'il n'avait pas pris part aux violences qui ont entraîné la mort du militant antifasciste il y a 5 ans. Patrick Maisonneuve, l'avocat d'Esteban Morillon, condamné à 11 ans de réclusion, a décidé de faire appel.
Nous allons interjeter appel de cette décision dès maintenant pour deux raisons. Pour la lourdeur de la peine d'abord, le parquet général avait requis 12 ans, il était condamné à 11 ans. Pour une deuxième raison, c'est que l'utilisation d'une arme a été retenue, nous sommes en désaccord total avec cette analyse des faits, dans la mesure où il ne ressortait absolument pas ni du dossier ni des débats, et notamment à partir des expertises que l'on pouvait raisonnablement confirmer qu'il y avait utilisation d'un coup de poing américain. Il y aura une deuxième partie. Il y aura une deuxième partie qui va se jouer devant une autre cour d'assises.
Patrick Maisonneuve, avocat d'Esteban Morillo, au micro de Florence Turne.
Des cas de peste porcine africaine détectés en Belgique inquiètent les autorités en France.
Le ministre de l'Agriculture a reçu hier les éleveurs de porcs pour leur détailler son plan d'action si la peste arrivait en France. Maladie qui ne présente aucun risque pour l'homme, mais qui tue tous les sangliers et porcs qu'il attrape. Cela fait 4-5 ans que cette peste porcine africaine est présente dans les pays de l'Est. Mais la filière porcine française ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive si vite près de nos frontières. Anne Lorchouin.
Cette peste porcine africaine est particulièrement crainte par les éleveurs de porcs français, dont la production se caractérise par des élevages de plus en plus concentrés, même si l'échelle est moindre qu'en Allemagne par exemple. En tout cas, cette concentration favorise particulièrement la propagation. Par ailleurs, voire surtout, les forêts françaises sont remplies de sangliers, et c'est bien ce qui inquiète les producteurs, ces sangliers qui prolifèrent à l'état sauvage, mais qui sont également issus d'élevages polonais, des sangliers importés pour la chasse de loisirs. La profession se scandalise d'ailleurs qu'on ait continué d'importer ces animaux connaissant les risques dans les pays de l'Est. Ce que demandent désormais les éleveurs, c'est de tout faire pour que cette peste ne traverse pas la frontière entre la Belgique et la France. Hier, le ministre de l'Agriculture leur a exposé son plan de bataille. D'abord, la chasse va être restreinte dans les 4 départements frontaliers de la Belgique, Ardennes, Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle, pour éviter que les animaux effrayés par les chasseurs ne se dispersent trop. Il est également demandé aux chasseurs français de mener une action de surveillance en signalant tout animal mort de façon suspecte. Les éleveurs, eux, doivent isoler leurs bâtiments et mettre en place une batterie de mesures biosanitaires. Si un élevage est contaminé, l'abattage du cheptel sera total et immédiat. La Confédération paysanne regrette de son côté que rien n'ait été contrôlé en amont au niveau des transports routiers. Sinon, pourquoi, selon le syndicat, un tel saut de cette peste porcine de l'Est de l'Europe jusqu'en Belgique si rapidement.
Les débats ont été vifs cette nuit à l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas changé le résultat. Les députés ont voté contre l'inscription dans la loi de l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. Plusieurs députés souhaitaient la sanctuariser dans le texte, mais ce ne sera donc pas le cas. La loi agriculture et alimentation a été votée hier. Elle doit maintenant être discutée au Sénat à la fin du mois. Pensez-y, il ne reste plus que quelques heures pour décider du taux de prélèvement à appliquer pour le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. 3 options sont possibles: le taux personnalisé, le taux neutre ou le taux individualisé. Tout dépend de votre situation personnelle et professionnelle. Une personne vivant en Haute-Garonne a remporté hier le premier loto du patrimoine organisé en France, un jackpot à 13 millions d'euros tout de même. Ce premier loto de la sorte a été un grand succès, selon le PDG de la Française des Jeux, Stéphane Palaise. Plus de 2,5 millions de tickets à gratter ont été vendus en à peine 15 jours, ce qui devrait permettre de générer des recettes de 15 à 20 millions d'euros. Elles permettront de financer des monuments en péril. Jean-Marc Chardon, la France n'est pas le premier pays d'Europe à mettre en place de telles opérations.
La cause du patrimoine, de sa préservation, elle a pris des formes diverses en Europe. À commencer par l'Italie, qui a conçu la première loterie pour le financement du patrimoine voilà plus de 2 siècles. Le principe en a été révisé au cours du temps jusqu'à la mise en place de la Lotomatica en 1996. Une partie des revenus du loto est dirigée vers la restauration de monuments de la péninsule, du Panthéon de Rome à de petites églises. Pas de loterie spéciale en revanche au Royaume-Uni, où avec le National Trust, ce ne sont pas moins de 8 milliards d'euros qui ont été collectés au fil du temps, de quoi apporter des fonds à quelques 42 000 projets patrimoniaux. Certainement plus que ce que la roue de la fortune rapporte en Allemagne, la Glücksspirale, qui a tout de même permis de rénover plus de 5000 monuments. Sans compter leurs voisins néerlandais qui, avec la banque Giro Lottery, leur ont emboîté le pas en organisant depuis plus de 10 ans une compétition annuelle à travers une émission de télévision grand public. Car ces opérations qui partent du jeu, du hasard, elles sont fortement médiatisées. Une prise de conscience nationale qui a bien reçu un écho au niveau de l'Union européenne, laquelle incite les États à intervenir dans la conservation et la restauration du patrimoine. Elle incite, crée des événements, distribue même des bourses aux États membres, mais elle n'en fait pas une priorité. Autrement dit, à chaque État à se mobiliser pour ce faire, de plus en plus en faisant appel aux initiatives privées, avec la Fondation du patrimoine en première ligne.
Et tout ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Profitez-en, vous pouvez visiter de très nombreux monuments. Le temps de ce samedi, c'est un grand soleil qui attend la plupart des régions. Quelques brumes matinales au nord, ce sera nuageux à partir de ce midi, de la Normandie à la Lorraine, ainsi que dans les Pyrénées, les Alpes et les hauteurs de la Corse. Pour les températures, il va faire doux jusqu'à 18 degrés à Dunkerque, 20 à Quimper, 22 à Strasbourg, 23 à Paris et au Mans, 28 degrés à Albi, ce sera le maximum.